Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot, heureux de vous retrouver sur Bretagne 5 dont la plume est à vous. J'ai choisi ce soir de partager non pas une nouvelle, mais le premier chapitre d'un récit fort original que m'a adressé le poète Jean-Albert Guénégan, que j'avais eu le plaisir de recevoir en octobre 2018 sur cette même antenne dans l'émission Page Blanche, et dont je vous invite d'ailleurs à redécouvrir le podcast sur le site de Bretagne 5. Il s'agit ici d'un récit autobiographique, « Courir après un rêve », tout juste paru aux éditions des Montagnes Noires en octobre 2020. Courir après un rêve où commente un jeune garçon d'une douzaine d'années marqué par l'embonpoint, de nature peu sportive, va se découvrir une passion dévorante pour la course à pied, dépasser ses limites et nous livrer dans ce récit d'apprentissage comment la course va bouleverser sa vie et contribuer à forger sa personnalité. Ce récit très touchant, écrit en prose, flirte sur le fil du rasoir avec la poésie. Pas étonnant, sous la plume d'un Jean-Albert Guénégan devenu, au fil des années, l'une des voix poétiques reconnues de la Bretagne. Courir après un rêve, édition des Montagnes Noires, premier chapitre, mes premières foulées. Après avoir vécu une douzaine d'années au deuxième étage d'un petit appartement proche de la rivière Le Jarlot traversant Morlaix, ce fut un bonheur fou, le jour où mes parents, émus, le cœur aussi serré que débordant de joie, entrèrent et passèrent à pas compter le seuil de la maison flambant neuf, construite à un jet de pierre de mon quartier d'enfance morlaisienne. Elle fut un couronnement, une réussite et une fierté, après tant de durs labeurs, de doutes et d'espoir, de découragement aussi. Ils l'aménagèrent à leur convenance. De nouveaux horizons s'ouvrirent à moi et, avec émotion, je les regardais, heureux de voir leur projet de vie aboutir. Nous habitions cette maison dans un lotissement moitié ville, moitié campagne, sortie de terre depuis quelques semaines. Des familles s'installèrent et là commença leur vie. 11 ans, peut-être 12, enfant en proie à de l'embonpoint, courut chez moi le bruit que le sport me serait salutaire et précieux. Mon père jugea bon de me faire perdre du poids et de raboter ce qui nuisait à la santé et à la beauté de mon jeune âge. Au bas de la rue Crère-Arvel, la colline du vent, vivait un homme d'allure sportive, avec sa femme et ses enfants. Le mercredi après-midi, le dimanche matin, il partait en voiture s'entraîner, pratiquer la course à pied. Voyant là une issue favorable afin de me faire retrouver une taille de guêpe, mon père, peu intéressé par ce sport, s'adressa à lui et demanda si cela ne le dérangeait pas de me prendre en charge et de m'apprendre à courir. Il accepta. Rangé au calende grec, mon ambition de jouer au ballon et de porter les couleurs du club de la ville. Comme nombre d'enfants, ma préférence allait au football et assidûment je suivais les matchs du Stade Morlaisien. Fini aussi la messe du dimanche matin, mon rêve enfantin, ma douce et naïve croyance. » sans guère d'envie, et même à contre-cœur, je repris début septembre le chemin du collège. Démarrait aussi la saison de course à pied à laquelle mon père me destinait. Monsieur le voisin, dont je ne connaissais pas encore le nom, avait fixé le rendez-vous le dimanche à 9h30. Ce matin, proche de l'automne, sous un ciel chagriné, après avoir donné libre cours à mon appétit fait de tartines de pain bien beurrées avec un café au lait, chausser une paire de tennis et puis m'être muni d'une serviette de toilette pour éponger la sueur, habillé d'un beau survêtement neuf paré pour mes premiers essais, je guettais la voiture bleue qui s'arrêta devant la maison. Je montais. Il n'y eut ni politesse, ni salam alek, mais un bonjour simple et timide, avec un serrement de main. L'homme déclina son identité. Michel Kerveadou. Je savais autant de lui que de la course à pied, c'est-à-dire très peu de choses. En bordure de route, longeant un grand bois à une poignée de kilomètres de la ville, alors que les arbres se dépouillaient de leurs feuilles, il gara sa voiture à côté d'autres, et je saluai des garçons avant que le départ de l'entraînement soit donné. L'entraîneur rassembla tous les membres du club et plus particulièrement sa jeune équipe à laquelle il expliqua le programme de la matinée. Meneur d'hommes attentionné, il défendait les couleurs du club athlétique morlaisien. Sur le chemin que la pluie avait transformé en gadou depuis la veille, je fis quelques mouvements afin d'échauffer les muscles, puis, comme un enfant excité à l'idée d'entrer à l'école maternelle, je me mis en route telle une rivière insolente et, pataugeant dans les flaques, je courus mes premières distances. Mètre après mètre, je découvris ce sport auquel je n'entendais rien. Tendu, emprunté, un peu gauche et sans allure gracieuse. Mes foulées furent hésitantes et peu assurées, pas très belles à regarder. Au bout d'un ou deux kilomètres, un « oh le cœur » me troubla. Malade, livide, sans savoir ce qui m'arrivait, je titubais, m'arrêtais net et marchais quelques pas vers un arbre. Tremblant, je le tâtais, m'appuyais contre lui en quête de réconfort et l'honorais en lui servant mon petit déjeuner. Hélas, blanc comme neige, je ne repartis pas. En ce dimanche de rentrée sportive, mon premier contact avec la course fut délicat et pas des plus estimables. Vers 16h, ce mercredi-là, à l'abri dans le garage de la maison, j'entendis le bruit du moteur de la voiture qui se mêlait à celui de la pluie. Elle tombait dru, et Michel embarqua vite sa jeune pousse pour un nouvel apprentissage de la course en sous-bois. Les arbres en conseil de famille parlaient de l'averse qui ne finissait pas de tomber, résonnant sur les feuilles mortes et trempées. Ce mauvais temps en avait découragé plus d'un. De sa voix grave, passionnée, vigoureuse et intéressée, montant au ciel, il s'adressa à nous. « Avant de partir, une première leçon à retenir, on court aussi avec les bras. Allez, jeunes, on y va !» Armés de courage, avec trois ou quatre amis, je rabattis ma capuche et, après des mouvements d'échauffement, je pris mon élan, handicapé de mes kilos superflus. Les pieds dans l'eau, je dosais mon effort, inspirais, expirais, évitais les points de côté aigus, respirais, essoufflais par saccades, me relâchais, allongeais la foulée, déroulais en me tenant droit. Après quelques précisions à peu près admises, je tirais faiblement sur les bras et réalisais de précieux assouplissements. Attentivement, d'un œil soucieux et protecteur, il surveillait et détaillait notre façon de courir. Exténué après 2 heures de course, sans poser un point d'exclamation, je marchais de gauche à droite, les mains sur les hanches, en quête de récupération, conscient de mes difficultés à tenir la distance. De bonne grâce, je me pliais aux recommandations et à l'expérience de l'entraîneur. Michel reconnut que courir avec les bras n'était pas aisé à comprendre, mais son côté exigeant, se forger un mental à toute épreuve, s'aguerrir au mal, était à son image important. Ses conseils utiles devaient être mon bréviaire afin de progresser. Quand survenait un moment de faiblesse du doigt, il me désignait le droit chemin. À la fin de l'entraînement, il convoqua le groupe pour le dimanche suivant et ces jours devinrent le rituel. Sur la route du retour dans la voiture, ce fut l'instant des observations. Détournant vers moi son regard, il me fit comprendre que mon style, il est pas bon. Tes attitudes sont mauvaises, tu cours mal, je te trouve trop raide, mais tu n'en es qu'au début, et ton style s'améliorera. Garde confiance. Courir avec les bras, d'accord, je te le réexpliquerai. Le silence intimidait la maison. Dans ma chambre, sur la table de travail, une lumière tamisée inspirait livres et cahiers. À voix haute, je repassais mes leçons créant un bruit d'insectes énervés. Ma mère frappa à la porte pour le repas du soir avec la volonté de faire le point. Son appel resta sans réponse. Elle me rappela en élevant le ton. En un tour d'horizon, sinon du monde, en peu de questions, autour de la soupe, elle s'inquiéta de mes premiers entraînements, s'ils correspondaient à mes attentes. Mon père, qui n'avait pas abandonné l'espoir de me voir porter les couleurs de son club fétiche sur un terrain de football, commença. « Alors, fiston, courir, te convient-il ? Es-tu à ton aise ? N'est-ce pas trop dur ? Tu sais, je t'ai amené à ce sport pour t'aider à mincir. » « Oui, oui, mais patience, papa. Je n'ai pas encore le niveau et ne me sens pas sûr de moi. Mais j'ai le caractère pour y arriver. Je suis à bonne école. » « C'est bien, donc tu continues. C'est quelque chose que je peux faire seul. Courir, ça me plaît. Ça me donne du mal, tu sais. Ça fait décoller du pesant quotidien. » Si tôt à dire de telles choses. Mais tes jours ne sont tout de même pas ennuyeux à ce point ? S'alarma ma mère avec une pointe d'angoisse. Non, bien sûr que non, je suis heureux, maman. Mais il y a des jours où l'ennui se ressent un peu plus. Avec ce sport, le monde se révèle à moi et mon enfance le découvre. Sa froideur aussi. Pourquoi arrêter ce que j'ai commencé depuis peu ? Je ne suis pas très haut, je grandirai. L'un comme l'autre, vous connaissez ma timidité maladive contre laquelle je me bats et cours. Et quand je cours, je suis bien. C'est ma façon d'être et ma volonté. Cela m'est suffisant, du moins pour l'instant. Ne trouvez-vous pas qu'avoir du goût, s'identifier à un sport, à des athlètes, soit une chose merveilleuse ? La course à pied est mon premier chemin et j'écris la première page de mon livre de vie. Mes parents se regardèrent. Leur visage jovial, ponctué de doutes et de craintes, alliés à un zeste d'inquiétude, se crispa légèrement. Bien que lisant dans leurs pensées, je perçus un sombre bourgeon de bonheur, une éclaircie, comme s'il me donnait raison. Affectueusement, ma mère, la bouche fermée comme une huître, suspendit ses yeux maternels aux miens, ce qui me rassura. Après avoir écouté attentivement le peu de mes sages, belles et candides paroles empreintes de jeune philosophie, elle réfléchit longuement, comme on revisite son imaginaire. Sans doute aurait-elle préféré aussi une pratique du football. Mais la course, en son fort intérieur, prenait trop de sentiers inconnus. Elle ajouta quelques mots. « Choisis le sport qui te convient, le mieux, mais courir ne doit pas prendre le dessus sur le reste, c'est-à-dire l'école, les devoirs et les leçons. J'y tiens, c'est important, compris ?»«
Oui, maman.
Dimanche, tu as entraînement ?»«
Comme d'habitude,
pour rêver ma vie de la plus belle des façons. » Du passé athlétique de mon entraîneur, j'ignorais tout. Cette question tournait dans ma tête, comme la terre autour du soleil, et il m'importait de savoir en quelles mains j'avais déposé ma vie de jeune sportif débutant. De même, de mon avenir, alors que je gravissais les premières marches de mon existence. À chaque entraînement, Michel, opiniâtre, suait beaucoup, travaillait dur et montrait l'exemple. Le regard collé à lui, je détaillais ses mouvements des pieds à la tête, convaincu que dans le monde de la course à pied, il avait une très belle carte de visite à faire valoir. Toutefois, ma timidité ne me permettait pas d'en savoir plus, mais un dimanche matin, en route vers le bois, ancrage du rendez-vous dominical, avec respect, je me bousculais et m'aventurais dans sa vie. « Michel, je ne sais rien de vous. Est-ce possible de mieux vous connaître ? Nous nous côtoyons depuis quelque temps, courons ensemble, et même si je suis derrière tout le monde, combler mes lacunes me ferait plaisir.
Ah, n'est pas facile de parler de soi. De plus, n'est pas dans mes habitudes. Ni d'être, ni de faire. » Je te tutoie, et tu le peux aussi. Sache seulement qu'avec mes proches, nous avons fait des sacrifices familiaux. Et si dans ce sport, tu veux grandir, tu devras en faire aussi.
D'accord. Tu as certainement entendu parler de Michel Jazy.
Oui, bien sûr.
Michel Jazy, champion d'Europe en 1962 et 1966, à Belgrade et Budapest sur 1500 mètres et 5000 mètres, champion de France du 800, 1500 et 5000 mètres. Et il a amélioré 9 records du monde, 6 records d'Europe et 32 records de France. Il a beaucoup travaillé, talentueux, et il s'est montré ambitieux. Alors, mets-toi en quête. Grâce à la presse écrite et radiophonique, beaucoup de jeunes de mon âge connaissaient le nom de Michel Jazy, grande figure de l'athlétisme français. De sa belle empreinte, il avait marqué les mémoires et comptait dans la conscience collective. J'étais de ceux-là, mais je n'en savais pas assez. À travers les livres et les journaux, j'approfondis et perfectionnais mes connaissances, mon savoir en matière de course à pied. Le 9 juin 1965, 20h, stade de Courtemanche à Rennes, 12 000 personnes garnirent les tribunes. Postées aussi, sur les branches des arbres et sur le toit des maisons,
le très nombreux public attendait, du jamais vu. Quelque chose allait-il se passer ? Michel Kervéadou, âgé de 29 ans, lièvre de Michel Jazy par amitié, partit vite, tandis que Michel Bernard et Jean Vadou coururent pour le battre. Puis il tira Michel Jazy sur 800 mètres, s'effaça et lança son ami, lui permettant d'aller au bout de la distance et de battre le record du monde du 1000, soit 1609 mètres, en 3 minutes, 53 secondes et 6 dixièmes. Cet événement fit la une du journal Paris Match. Ma jeune curiosité fut satisfaite. Je courrais donc aux côtés d'un athlète d'un excellent niveau en athlétisme. Je le respectais beaucoup. Cela me mettait en joie, éveillait mon appétit et m'animait du secret espoir de briller dans ce sport. Je m'appliquais et m'entraînais sérieusement les mercredis et les dimanches. Les matins où le courage et l'intérêt pour l'école me manquaient et me mettaient en retard, je courrais, même sur une courte distance. La course à pied faisait désormais partie de mes jours et occupait les murmures de mes nuits. Lors d'un entraînement, Michel me proposa d'adhérer au club athlétique morlaisien et me conseilla d'acheter une paire de pointes afin de faire athlète et d'être bien loti pour la pratique de ce sport. Courir colonisait mes rêves les plus fous, c'était mon plaisir que constatait ma mère d'un œil mirador, avec dans le viseur la crainte que ce soit au détriment de mon travail scolaire pas toujours excellent. À ses fourneaux, je lui rappelais que, malgré mon bon coup de fourchette, ne pas trop manger m'était recommandé. Elle s'en souvint. Oh, pas vraiment piquée de ce sport. En fin de matinée, elle m'accompagna dans un magasin. Avec gêne, je chaussais une paire de pointes et, à défaut de foulée, fis quelques pas peu convaincants. Des jours et des jours furent nécessaires pour m'y habituer. Les pieds souffrirent. Le changement fut d'importance. Entre un rayon de survêtements et un autre de shorts, elle me redemanda, un peu agacée, si courir me convenait vraiment. Sans doute attendait-elle une réponse opportune. Il n'en fut rien et je ne l'ennuyais pas plus. Ma mère acheta la paire. Et du magasin, je sortis fin prêt pour l'entraînement de l'après-midi. Sans conviction, elle me remit l'argent nécessaire à l'adhésion au club. Un peu avant 16 heures, par un temps doux et sous un ciel gris, paré, je patientais près de la maison. Michel arriva et roula vers le bois. Avec les copains, je parlais de choses et d'autres en attendant le départ que nos jeunes oreilles n'entendirent pas. « Bon, vous préparez vos vacances ou quoi ?» L'entraîneur s'adressa aussi à moi. « Rappelle-toi bien ce que je t'ai dit. Pense à ta foulée, allonge-la. Maintenant que tu sais ce que veut dire tirer sur les bras, cours, mais cours avec eux. Je ne répéterai pas. » J'écoutais avec attention ses remarques unies aux encouragements. J'intériorisais ses suggestions. Comme à l'école, quand un professeur fait une remarque pour une leçon mal apprise ou un devoir bâclé. Michel, d'un air solennel, renouvela sèchement ses conseils et recommandations en élevant la voix. Après de petits sauts et de claquements de bras répétés à l'envi pour me réchauffer avec les amis et en souriant, je m'élançai doucement, sans forcer. Au bout de quelques centaines de mètres sur les chemins, j'augmentais l'allure, pratiquais les buts poussais sur les jambes, recommençais, me dépensais beaucoup, avec un réel désir de progresser.
Se tient aux aguets, prend garde approchée. Il esquive des pings, des coches, des directs du droit, du gauche, attaquant les joueurs de balle, rondes ou bien ovales, descendant en rafale. Tous les yeux fixent les poteaux, le but est marqué, bravo. Et voici les escrimeurs et les nageurs, les basketteurs, par milliers ceux qui pratiquent les nobles sports athlétiques. Le sauteur qui prend son élan frissonne un instant et hop, se détend. Sa nouvelle performance bat tous les records de France. Les coureurs mouvant peloton défilent et s'en vont par monts et vallons. Et le vent sur les grands chemins emporte au loin ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur, les joyeux efforts, ivres d'efforts, chantons vive le sport. Match international pour la grande finale, avant le signal, dans le stade avec passion, on parie sur ses champions. Managers, soigneurs, supporters, vibrants spectateurs chantent leurs couleurs. Les voici parmi les vivas qui font leur entrée. Hurrah! Coup d'envoi, le match se déroule, l'émotion saisit la foule. Plein d'espoir en ses vedettes, le sportif crie à tue-tête. La victoire hésite longtemps entre les deux camps, qui sera gagnant? C'est une lutte incertaine qui nous tient tous en haleine. Mais s'il faut qu'il y ait un vainqueur, gronde la rumeur qu'il soit le meilleur. Et des tribunes au gradin, le vent porte ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire vole vers la victoire. Chantons tous en cœur les performances et les vainqueurs, allons sans peur. Joyeux et fort, ivre d'effort, chantons vive le sport.
Eh bien, chanté ici par André Dassary, La marche du sport, dont vous me pardonnerez, je l'espère, le côté quelque peu martial. Mais je n'ai pas pu résister à ce clin d'œil sportif qui ne manquera pas de faire sourire, et en particulier ceux qui connaissent mon goût immodéré pour le sport, façon Churchill. À signaler que cette chanson fut des années durant le générique qui ouvrait l'émission du dimanche après-midi Sports et Musique, une émission de radio emblématique diffusée sur Paris Inter puis France Inter entre 1945 et 1987, composée de reportages sportifs en direct et agrémentée de morceaux musicaux. Vous avez entendu ce soir Mes premières foulées, le chapitre qui ouvre l'ouvrage autobiographique de Jean-Albert Guénégan, paru en octobre 2020, Courir après un rêve, aux éditions des Montagnes Noires. Eh bien, pour connaître la suite de ce très émouvant récit et vous procurer l'ouvrage, vous pouvez contacter votre libraire le plus proche par le dispositif du cliquer-retirer ou contacter l'auteur par mail à l'adresse suivante en minuscules et sans accent, Guénégan, G-U-E-N-E-G-A-N, tiré du 6, Jean, tiré du 6, Albert, @wanadoo.fr. La plume est à vous, c'est terminé pour ce soir. Merci à l'ami Frédéric Guyon qui a œuvré à la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à cette même heure dans La plume est à vous. Je vous souhaite une excellente semaine sur Bretagne 5. À très bientôt. Prenez soin de vous comme des autres. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.